Laudetur Jesus Christus.
Une semaine de deuil national s'ouvre en Birmanie. 4 jours après le séisme, les secours sont au travail pour creuser dans les décombres, apporter de l'eau aux sinistrés en Thaïlande. Le gouvernement lance une enquête après l'effondrement d'une tour en construction. 80 ouvriers y sont piégés. Nous irons à Bangkok auprès de leur famille. Coup de tonnerre en France où Marine Le Pen, 2 fois finaliste à la présidentielle, est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité. Dans une affaire d'emploi fictif, décision sans surprise qui peut créer de gros remous politiques. Dans ce journal également, le ras-le-bol de la société civile sud-soudanaise qui exhorte Salva Kiir et Riek Machar à quitter leurs fonctions. Les deux leaders sont de nouveau au bord de la guerre civile. Et puis nous irons en Syrie 4 mois après la chute du régime de Bachar el-Assad. Les familles de disparus restent dans l'inconnu.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. En Birmanie, la junte annonce une minute de silence. Demain matin, plus de 2000 personnes au moins ont été tuées dans le séisme de vendredi de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter. Près de l'épicentre, dans la deuxième ville birmane, les funérailles de centaines de victimes ont été célébrées aujourd'hui à Mandalay. Les secours s'activent encore pour retrouver des victimes ensevelies par une chaleur de 40 degrés en journée. On soigne des centaines de patients sur le parking de l'hôpital central. On n'y entre pas par peur des répliques. Selon l'UNICEF, 1 million d'enfants sont à risque dans le pays. Et puis à 1000 km de l'épicentre à Bangkok, les opérations se poursuivent pour retrouver des survivants dans les décombres d'une tour en chantier qui s'est effondrée. Notre correspondant Thaïlande, Valentin Sébron, a rencontré les familles des 80 ouvriers qui y sont piégés.
Devant la carcasse de l'immeuble qui s'est effondré, une tente jaune est installée pour se mettre à l'ombre et se protéger de la chaleur cuisante. À l'intérieur, certains proches des ouvriers toujours piégés sous les décombres scrutent les pelleteuses qui déblaient le chantier en ruine, comme Pok, l'air complètement abattu.
Il y a mon petit frère et mon oncle. Ils font partie d'une équipe de 5 personnes que je connais. 3 sont déjà morts. J'espère que je vais les revoir, mais je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. On attend d'avoir plus d'informations.
Il montre du doigt derrière lui un ouvrier qui a survécu. Sampan, maçon, raconte comment il s'est sauvé in extremis.
J'étais descendu pour aller chercher du matériel et j'utilisais la grue pour le faire remonter au dernier étage. La grue a commencé à trembler, alors je me suis mis à courir et 1 seconde plus tard, tout s'est écroulé. Un ami travaillait tout en haut, je n'ai pas de nouvelles de lui, je suis inquiet, mais j'ai espoir qu'on retrouve des survivants.
Quand le séisme a frappé, c'était seulement son 2e jour sur ce chantier. L'homme de 29 ans est encore choqué, mais il se dit chanceux d'être sain et sauf.
Valentin Sébron, et puis dès vendredi, signe de l'attention portée à cette région du monde, le pape priait pour les victimes du séisme. Il envoyait un télégramme sur place. François et sa reconnaissance des périphéries, le pape a signé une série de décrets reconnaissant 3 nouveaux saints aujourd'hui, dont le premier natif de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le catéchiste laïque Peter Thorot. Au Venezuela, l'église, elle reçoit le don de sa première sainte 1 mois à peine après son premier saint. Le pape a en effet approuvé la canonisation de Mère Carmen Elena Reniles Martinez. Et puis enfin, un martyr du génocide arménien de 1915 sera lui aussi canonisé. 3 histoires de sainteté à retrouver sur notre site internet. Guerre en Ukraine. La Russie va lancer sa campagne de conscription militaire de printemps. Elle concernera 160 000 jeunes âgés de 18 à 30 ans. Le chiffre est en hausse. Un décret en ce sens a été signé par le président Poutine aujourd'hui. Le président russe qui dit rester ouvert à tout contact avec son homologue américain, le locataire de la Maison Blanche, qui s'est dit très énervé ce week-end envers son homologue après que ce dernier lui évoque l'idée d'une administration transitoire en Ukraine sans son président Zelensky. Et puis les États-Unis ne convoquent pas les Européens à la table des négociations, mais restent un fournisseur incontournable. Alors que les 27 réfléchissent à un réarmement européen, la Pologne signe avec Washington un contrat de défense antiaérienne pour 2 milliards de dollars. Séisme politique en France avec la condamnation ce midi de Marine Le Pen pour détournement de fonds européens assortie de peines qui incluent l'inéligibilité avec effet immédiat de la principale opposante dans le pays. Ce verdict contre lequel Marine Le Pen a déjà fait appel pourrait empêcher la dirigeante à l'Assemblée du Rassemblement National de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
Marine Le Pen et 24 membres du RN sont jugés coupables de détournement de fonds. La triple candidate à la présidence écope de 4 ans de prison, dont 2 ans fermes qui seront effectués sous bracelet électronique. Elle reçoit surtout une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire, ce qui veut dire que l'appel interjeté par Marine Le Pen dès après le verdict ne va pas suspendre cette sanction. Dans le camp macroniste et dans les partis de gauche, les élus font valoir que le verdict souligne que la justice s'applique en France France, quel que soit le justiciable. Cependant, Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise, déclarait, je cite, que la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. À droite, les réactions sont unanimes à déplorer l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité envers Marine Le Pen. Notamment Laurent Wauquiez, chef de file des députés du parti centriste des Républicains, dénonce un verdict qu'il qualifie de très lourd et d'exceptionnel. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
En France, le Premier ministre se dit troublé par le verdict. Le président du RN, Jordan Bardella, appelle à une mobilisation pacifique et populaire. Le Conseil supérieur de la magistrature exprime son inquiétude face aux réactions virulentes qui suivent la condamnation de Marine Le Pen, les jugeant de nature à remettre en cause gravement l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et ces réactions viennent de France, mais pas seulement. Elon Musk dénonce un abus du système judiciaire. « Je suis Marine », lance quant à lui Viktor Orban. Hongrie en tête, de nombreuses voix se sont élevées après le verdict dans l'extrême droite européenne pour dénoncer la condamnation. Restons en France où s'ouvrira demain l'assemblée plénière de printemps des évêques de France. Elle durera jusqu'à vendredi prochain. La question de la lutte contre les abus dans l'église restera un thème majeur de ces journées de travail. Ce matin, s'est d'ailleurs ouverte une session spéciale d'une journée et demie d'évaluation des perspectives aussi dans la lutte contre ce fléau. Et puis à noter, à Lourdes, les mosaïques entourant les deux portes latérales de la basilique du Rosaire ont été recouvertes de panneaux ce lundi. Elles avaient été réalisées par Marco Rupnik, ancien jésuite condamné pour agression sexuelle sur plusieurs femmes. Le Soudan du Sud proche d'un retour à la guerre civile. Les inquiétudes sont formulées par les Nations Unies depuis plus d'une semaine ou encore l'IGAD, l'Organisation panafricaine des États de l'Afrique de l'Est. Le placement en résidence surveillée du vice-président Riek Machar par le pouvoir de Salva Kiir a fait voler en éclats l'accord de réconciliation de 2018. Dans le plus jeune pays au monde, la société civile, elle appelle à tourner la page. Les précisions de notre correspondante régionale, Augustine Passilly.
Le collectif sud-soudanais Reclaim, composé d'activistes, de femmes et d'hommes politiques, de chefs religieux et d'universitaires, a publié ce matin un communiqué au ton fataliste, constatant que ni le président Salva Kiir ni son premier vice-président Riek Machar n'ont eu la volonté de mettre en œuvre l'accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud, signé par les deux adversaires en 2018. Nous pensons qu'une paix véritable et durable au Soudan du Sud est impossible tant que Kiir, Machar et leurs milices resteront au pouvoir, affirment ces représentants de la société civile. Ils appellent la communauté internationale à soutenir la tenue d'un dialogue entre Sud-Soudanais qui serait mené par des citoyens ordinaires et non par des élites politiques et des acteurs militaires. L'objectif consiste à préparer cette ère post-Salva Kiir et Riek Machar en identifiant les causes profondes de la crise en cours. La semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est inquiété de cette escalade qui rappelle selon lui la guerre civile ayant ravagé la plus jeune nation du monde à partir de 2013 avec un lourd bilan de 400 000 morts. La menace s'est en effet accrue le mercredi 26 mars avec le placement en résidence surveillée de Riek Machar. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Et puis hier, le pape François exhortait les leaders à relancer un dialogue constructif au Soudan du Sud. En Syrie, près de 4 mois après la chute de Bachar el-Assad, des centaines de familles cherchent encore leurs disparus. Des milliers de personnes victimes d'arrestations ou d'enlèvements sous le précédent régime. Plusieurs projets ont été lancés pour cataloguer les preuves des exactions, trouver de potentielles fausses communes. Mais les familles regrettent la lenteur du processus. Reportage de Manon Chaplin.
La disparition a eu lieu le 1er janvier 2014. Ce jour-là, Ibrahim Alhamad, 19 ans, se fait arrêter dans la province de Deir ez-Zor où il travaille comme volontaire pour le Croissant Rouge. Dans l'espoir de le retrouver, sa famille a au lendemain de la chute du régime partout fouillé. Hôpitaux, morgues, listes de recensement des prisonniers. Ils ne savent toujours rien, pas même la raison de son arrestation. Anna, son amie d'enfance.
Juste avant, il avait fait entrer des médicaments dans les zones assiégées, sous le contrôle des rebelles. C'est l'une des raisons possibles.
Sur une petite place de la banlieue sud de Damas, Anna est venue avec des dizaines d'autres familles en mémoire des disparus. Elle porte la photo d'Ibrahim entre ses mains, réclame plus d'efforts du nouveau gouvernement syrien.
La question des disparitions forcées devrait être prise plus au sérieux. Après la chute du régime, nous pensions tous retrouver nos proches emprisonnés.
Début février, le ministre des Affaires étrangères a annoncé la création d'une haute commission chargée des personnes disparues qui n'a toujours pas vu le jour. Autre problème, la sauvegarde des documents attestant de la brutalité du régime et des crimes de guerre. Jad Alhamada, cofondateur des Tentes de la Vérité, ONG qui vise à coordonner l'action des familles de disparus.
Le premier mois après la chute du régime, c'était le chaos. Nous avons vu des centaines de documents jetés par terre, les quartiers généraux de la sécurité, les prisons d'anciennes scènes de crimes souillées. Ça a rendu les preuve inutilisable.
Selon le réseau syrien des droits de l'homme, près de 136 000 personnes ont disparu sous la dictature du clan Assad. Seule la trace de 24 000 d'entre eux a été retrouvée au lendemain de la chute du régime. À Damas, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Voilà, et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir suivi. Une excellente soirée à tous.